par exemple les soins infirmiers. Alors, puis ensuite, il y a l'échec, on va dire, dans le projet migratoire, beaucoup, et le manque d'estime de soi. Donc, ces personnes souffrent énormément et ont des problèmes psychologiques, des souffrances mentales. Je voudrais vous citer l'exemple d'un monsieur que j'avais rencontré sur un site qui parlait quand même très bien français, parce qu'il était marocain, francophone, même s'il n'écrivait pas. Et ce monsieur, il était victime de l'amiante. Et avec une assistante de la assistante sociale de la CRAMIF, on allait le voir, c'était pour lui monter un dossier de dédommagement, parce que ça a été découvert très tard et il s'est mis en arrêt. On allait toujours le voir dans la cuisine commune, on boit le café ensemble, on parle, et jamais il nous parlait de sa famille. Jamais il parlait de sa famille qui est restée au pays. Il avait des enfants, il nous disait qu'il avait quand même 7 enfants, mais il ne voulait jamais aborder la question de sa famille. C'est vrai, il était en souffrance déjà physique et psychique. Jusqu'à un jour, moi je vais à cette permanence et je ne le vois pas parce que les plannings sont bien affichés ici. Il sait qu'on vient tel jour, et il venait nous voir. Et ce jour-là, il n'était pas là. Donc moi je suis allée vraiment toquer à sa chambre et je l'appelais en fait pour qu'il me réponde. Il ne voulait pas m'ouvrir. Il était là, mais il ne voulait pas m'ouvrir. Alors j'ai attendu, j'ai dit bon monsieur tel, je lui parlais derrière la porte et j'ai dit je suis là, si jamais vous voulez me voir, je suis au bureau, vous venez me voir. Donc 2 heures après, le monsieur, il arrive, c'était presque le moment où j'allais partir, parce que je reste 3 heures sur une permanence, et là, il vient me voir, et il me dit, en fait, qu'il ne voulait pas ouvrir, tout simplement, parce qu'il n'était pas dans un état pour me recevoir ou pour me parler. Il était complètement sombré dans l'alcool, quoi. Et nous, on n'avait jamais détecté que cette personne était alcoolique. Et ce jour-là, voilà. On l'a appris. Donc là, il a voulu un petit peu me parler et j'ai essayé de savoir qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers l'alcool. D'autant plus, c'est une personne d'origine et de culture musulmane, donc être alcoolique. Et de fil en aiguille, il me dit que, en fait, vu le fait qu'il est malade, qu'il a appris maintenant qu'il a ce début de cancer, lui, pas question de retourner dans son pays, de voir ses enfants et qu'il avait pris une décision de ne plus y retourner. Et du coup, pour compenser, c'est sombrer dans l'alcool. C'est, voilà. On avait proposé, bien sûr, de l'aider, d'essayer de l'accompagner un petit peu pour voir un psy, pour... C'était un refus catégorique. Il m'a dit, moi, je préfère rester là, ne pas voir ma famille. En tout cas, je vais mourir de quelque chose, de mon cancer ou de l'alcool. Donc, je décide de rester là. Et en effet, cette personne, malheureusement, est décédée seule dans sa chambre. Et il y est resté 4 jours. 4 jours dans sa chambre. Et nous, on a eu l'information par la mairie du 19e, alors que la personne habite sur le 94, parce qu'il n'y avait pas de membre de famille, comment on va, en fait, pour le transfert du corps, ils n'avaient aucune information. Les bailleurs, le responsable, n'avaient aucune information. Donc le monsieur avait vraiment coupé avec sa famille. C'est après qu'on a appris, c'était 17 ans qu'il n'était pas retourné dans son pays. C'est quand même, il n'est pas très très âgé, il devait avoir dans les 63 ans, 64 ans, il ne travaillait pas, il était malade. Et ça c'est une souffrance et on en voit beaucoup comme ça dans les foyers, c'est vrai, de travailleurs migrants, il y a beaucoup de personnes âgées qui sombrent dans l'alcool parce qu'elles ont rompu avec la famille, parce qu'elles ont vécu l'échec, parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers aussi pour aller à la famille, dire voilà, et aider leur famille. Une fois on est à la retraite, on rentre au pays, on y vient. Ça aussi, c'est une grande souffrance chez les personnes migrantes. Les conditions de logement, comme je disais. Alors là, c'est une autre problématique. Je vais vous citer un exemple. Il y a un monsieur aussi qui a passé 40 ans dans un foyer, mais en 2014, il a réussi à avoir un logement social. C'était une très bonne nouvelle pour lui, pour nous. Il a fait venir sa femme qui était diabétique et qui avait besoin de soins. Donc elle vient ici, mais 6 mois après, elle a eu une amputation de jambe droite. Et la femme est quand même, sa femme, elle est forte. Donc elle s'est retrouvée dans un fauteuil roulant et ils sont dans un logement social inadapté. Elle ne peut pas accéder au sanitaire. Hein. Mm-hmm. Il y a une baignoire, ce n'est pas fait pour une personne sur fauteuil roulant. Donc lui, il a une barrière linguistique, il ne connaît pas les dispositifs, il n'a jamais sollicité ni assistante sociale, ni allé au service de l'EDS, du CCAS, ne serait-ce que pour se renseigner. Ils sont tous les deux, il fait les tâches ménagères, c'est lui qui s'occupe des tâches ménagères. La personne ne sort pas du tout, ils ont un petit balcon, mais il y a la lever pour dans son fauteuil sur le balcon, c'est pas, il n'y a pas d'accès en fait facile. Il y a des ascenseurs où il faut quand même 3 marches ou 5 marches pour arriver à l'ascenseur, et tout ça le monsieur il l'a vécu au moins pendant 2 ans, et son état de santé même physique s'est détérioré. Il a maigri, il se nourrissait plus, il continuait à culpabiliser que c'était sa faute, qu'il aurait dû laisser sa femme au pays. Pourquoi il l'a fait venir et on lui ampute sa jambe. Sa femme qui n'arrêtait pas de tous les jours de regretter, de dire on m'a pas laissé enterrer ma jambe, parce que toute la jambe a été amputée, elle voulait elle enterrer la jambe, et ça c'était une souffrance aussi pour elle. Pourquoi on me brûle ma jambe et pourquoi on me la donne pas, moi je voulais l'enterrer, un bout de moi je veux l'enterrer. Ça aussi, c'est une souffrance, et toutes les deux personnes ne parlent pas français, quoi. Donc, ils restent là, c'est très compliqué. Enfin, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait exposé la situation lors d'une commission vieillissement, et on attend toujours la réaction du CLIC, la réaction des structures, c'est vrai. Rien n'a encore été fait, malheureusement.
C'est sur quel territoire ?
Sur Champigny. Ah. Sur Champigny, oui.
Je n'y peux rien.
Oui. Et c'est vrai que lors des commissions de vieillissement, il y a les lieux à la santé, il y a le CLIC, il y a tous les dispositifs locaux qui pourraient agir. Et nous, on a relevé. Pardon ?
Moi, j'étais infirmière coordinatrice en gérontologie sur 93. Effectivement, des cas comme ça, il y en a plein, avec des gens qui vivent dans la cave. Et qui ont des pathologies qui veulent tout retourner au pays et qui s'en vont dans l'alcoolisme et dans l'isolement qui fait que ils sont en dépression totale. Et effectivement, l'adaptation ou le changement d'appartement avec des handicaps, c'est hyper compliqué.
C'est vrai, nous, on ne sait pas comment faire pour. Personnellement, je ne sais pas comment faire pour cette situation. Mon rôle, c'est d'identifier des problématiques comme ça et de les soumettre, les exposer. Puis après, il n'y a aucune solution qui se met en place. Et
Mais au-delà de ces situations dramatiques qui existent, on avait bien échangé sur la réticence, sur les difficultés d'accès aux soins psychiques que tu rencontres. C'est-à-dire que les gens aussi, n'ont pas envie de...
Ils n'ont pas envie, justement, ce qu'elle avait évoqué tout à l'heure, Fatia, c'est aussi les représentations, surtout pour un problème mental ou psychique. C'est très mal vu dans la communauté. Je ne vais pas aller chez le psychologue, surtout, déjà, c'est pas remboursé. Ça, c'est un frein. Un psychologue, il ne va pas se déplacer dans un foyer pour voir la personne. C'est aussi l'inaccessibilité aux soins mentaux. Un psychiatre, on va y aller, c'est vraiment quand... des fois, c'est sous contrainte, ce qui arrive. Des fois, la personne, elle accepte d'aller voir un psychiatre parce que c'est médicalisé. Il va me donner des médicaments, donc ça va me soigner. Et il y a beaucoup de réticence aux soins psychiatriques et aux soins mentaux. Mais le premier frein, c'est vraiment aussi au niveau financier. Parce que les séances ne sont pas rembourser. Et c'est très très compliqué de faire accepter à une personne migrante d'aller à l'hôpital psychiatrique.
Ouais. Ça demande du temps. Nous, sur la Gironde, on a réalisé, souvent des appels au service précarité. En fait, mais ça demande un temps fou, c'est-à-dire qu'on y allait tous les 8 jours, tous les 15 jours, pas au domicile, on passait du temps avec ces gens, on créait des liens, et petit à petit, on arrivait, pour certains, à mettre des prises en charge en place, et c'est extrêmement compliqué.
C'est compliqué, c'est vrai, il y a aussi l'accompagnement qui manque, l'instauration de la confiance, parce que dans les foyers de travailleurs migrants, il y a de moins en moins de travailleurs sociaux, il n'y a pas de médiatrice sociale, il y en a peut-être chez ADEF, mais par contre, à Doma, il n'y a pas, Qualia, il n'y a plus, Qualia, ça y est, c'est fini, ça va aussi carrément en faillite. Il n'y a plus de médiatrice et c'est très compliqué. Alors les personnes, elles sont délivrées à elles-mêmes, c'est le voisinage, il y a un problème d'inuisance, il y a toujours des conflits entre les résidents. Dès qu'il y a un changement, par exemple, de responsable de site sur Concorde, alors j'ai cité l'exemple, il y avait un responsable plus ou moins maîtrisé un petit peu tous ces conflits, ces problématiques, et essayer de trouver tout seul des solutions. Mais actuellement, il y a une jeune femme qu'on a mis là-bas comme responsable de résidence. Alors, une jeune femme avec 300 résidents
officiels et combien d'officieux?
Oui, voilà. Donc, ça peut aller jusqu'à 500 résidents. Ouais. Et il y a un bout de femme, elle a peur. Elle a peur parce que ces personnes, elles viennent pour des demandes, peu importe. Hein, j'ai ma lampe qui a grillé, j'ai le robinet qui fuit, tout ça. Et il faut faire la chose tout de suite, il faut alerter si ce n'est pas fait. Donc, c'est les conflits. C'est des conflits. Alors, la personne, la responsable, elle s'enferme dans le foyer. Heureusement que c'est blindé, elle regarde par la caméra, elle sait à qui elle va ouvrir. Si c'est pour encaisser le loyer, ok, je vais ouvrir. Si c'est pour un autre problème, je n'ouvre pas. Et là, ça se complique de plus en plus à Concorde. Parce qu'elle est là-bas à plein temps, mais c'est très compliqué. Moi, je discute avec elle, elle me dit « j'arrive pas à gérer toute seule ». Elle a peur quand elle sort, parce que c'est pas, ils vont pas la frapper, ils vont pas l'agresser, loin de là. C'est des personnes très gentilles, ces résidents. Mais seulement, ils sont aussi dans l'attente, ils attendent des réponses à leurs problématiques. Et tout ça fait... Ceci fait aussi en sorte que ces résidents ils disent « on nous a laissés tout seuls, on ne s'occupe pas de nous, on veut juste avoir récupéré le loyer, mais ils se foutent de notre santé, de notre monde. » Et ça met les personnes aussi dans des souffrances, dans un échec, une réticence aussi pour le soin. Non, c'est on n'est pas malade, mais c'est parce qu'ici on ne s'occupe pas de nous, on ne se rend pas compte que voilà. Des fois il y en a qui vous disent moi je paye 400 euros, c'est à vous, la chambre est à 400 euros, vous devez me faire ça et ça et ça. Et c'est très dur à gérer pour une jeune femme sur un site comme celui-là. Puis il y a les conflits sur d'autres sites. Par contre, là, c'est des discriminations. On peut trouver des responsables, des bailleurs qui ne veulent pas rendre service à celui-là parce qu'il est maghrébin. Donc, moi, j'ai assisté à ce genre de problématique. Je connais ce résident qui est très âgé, qui a un problème cardiaque, hyper tendu. Il tient pas très bien sur ses jambes et qui a demandé un logement depuis plusieurs années. Il n'a toujours pas réussi à l'avoir. Il a un énorme conflit avec la responsable parce que ce n'est pas les mêmes origines. Et je suis allée même jusqu'à la voir et même personnellement, j'ai eu des problèmes avec cette responsable. Et ce résident, il est allé jusqu'à porter plainte avec d'autres résidents. Ils ont fait une pétition et c'est vrai que ça, c'est dramatique de se sentir comme ça. Avoir ce genre, arriver là quand même avec un responsable, c'est dramatique. arriver au racisme dans un foyer, c'est le pire qui peut arriver. Alors que ces personnes, elles estiment qu'elles sont là, les colères, depuis 50 ans qu'elles vivent là, et puis non, parce que celui-là, il est de mon pays, je vais plutôt le mettre dans cette chambre, je vais lui rendre service, mais toi, le petit vieux, va-t'en, tu nous embêtes tous les jours, t'es malade, rentre dans ton pays, pourquoi t'es là? Tout ça, ça arrive au quotidien aussi. Donc, oui.
Ça dit bien que quand on est professionnel, même si on est de la même culture que les usagers ou les patients, c'est pas toujours un levier. C'est pas toujours un levier. Tout le monde n'est pas dans cette capacité aussi.
Et il faut être très vigilant justement de ne pas assigner cette identité aux personnes issues de la diversité au sein d'une équipe. Hein, ça c'est le réflexe habituel dans une équipe, c'est de dire bah, toi tu viens de là-bas donc tu... Mais un, ça peut la mettre dans une situation très embarrassante. Deux, c'est du racisme, puisque voilà. Et trois, ça n'implique pas la compétence. Ça c'est tout à fait clair. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la dernière partie? Commentaire sur ces difficultés d'accès aux soins psychiques. Les estomacs sont hypoglycémiques.
Peut-être je peux ajouter moi juste une toute petite chose par rapport aux personnes, aux seniors. À Uraka, ceux qui sont orientés, souvent nous, ça va être par le médecin traitant. Parce qu'ils vont repérer des patients qui ont des plaintes somatiques, qui parfois sont peut-être d'origine psychologique. Et au-delà de forcément l'arthrose qui peut être aussi liée à l'âge ou parfois le médecin va poser des questions sur le moral comment ça va, et c'est là où il peut y avoir l'orientation vers la consultation pour que le patient puisse évoquer ce qui ne va pas. Et moi les personnes que je reçois parfois il y a l'impossibilité de rentrer au pays. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va là-bas 2 mois en vacances, 3 mois, et puis au début tout le monde est content comme d'habitude. À un moment donné, quand on croise quelqu'un, on nous dit bah, t'es encore là toi, t'es pas reparti, tu pars quand? Comme s'il y avait une place impossible, c'est-à-dire qu'on n'est que de passage à partir du moment où on a quitté, on peut plus venir rentrer. Et c'est pas évident ce passage-là.
C'est pas évident, et on le voit beaucoup avec les retraités au foyer Manoukian. Le mythe du retour, on l'avait bien décrit sociologiquement avec les Portugais, qui construisaient des grandes maisons qui étaient toutes vides, c'est ce qu'ils appelaient les maisons housses, et dans lesquelles finalement ils n'allaient pas passer leur retraite, qui restaient les maisons sous housses. Et c'est un peu pareil avec ces populations subsahariennes. Qui, en fait, ils ont été désignés pour dépenser leur vie pour le village. Et s'ils n'arrivent plus à apporter de l'argent, ils sont inutiles. Et ils sont rejetés là-bas. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qu'on intègre aussi dans nos schémas de pensée, c'est que ce retour au pays, il est quasiment exclu dès le départ. Dès le départ. Pardon ?
J'ai dit parfois inconscient.
Ah, c'est inconscient. Non, c'est inconscient. Oui.
Il y a aussi le changement de mentalité. Enfin, il y a quand même des gens qui ont vécu la moitié de leur vie ici, donc plus forcément envie d'en
parler.
Il y a aussi ça.
Alors, il y a ça aussi, mais dans les foyers, moins. Parce que les foyers, c'est des microcosmes. Quand on va à Manoukian, vous êtes au Mali. C'est extraordinaire. C'est, d'ailleurs, il y a le marché, il y a les banabana, etc. Et le meilleur exemple, c'est qu'on est obligé de traduire en bambara à des gens qui ont travaillé pendant 40 ans et qui n'ont pas appris un mot de français. Donc ils sont vraiment dans le microcosme. Ils vont nettoyer les toilettes de Roissy, ils n'ont pas besoin de savoir le français pour ça. Ils rentrent au foyer et ils bougent plus du foyer.
C'est comme les Maghrébins d'avant aussi. Les Maghrébins qui étaient dans les mines, dans les usines Peugeot et tout ça, ils n'ont pas appris le français. Les Algériens, les Marocains, ceux qui n'ont pas été à l'école, ils allaient le matin avec leurs petites gamelles, ils sont en mine, ils sont dans l'usine, ils rentrent le soir, il faut préparer la gamelle et dormir. Donc ils n'ont pas appris le français, ils n'ont, justement, et du coup ils ont perdu plein de droits communs. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit encore des migrants dans les foyers qui ne parlent pas un mot.